Bonjour à toutes et tous. Alors, je n'ai pas accès à vos agendas Google, mais je crois pouvoir deviner ce que vous avez fait hier matin, ou sinon le week-end dernier, ou sinon certains soirs de décembre, en allant, je sais pas, sur des sites comme Amazon, etc. Je pense que vous avez dû faire quelques courses de Noël. Je ne me trompe pas trop, hein. On va acheter des cadeaux, on va chercher des idées qu'on espère originales pour pouvoir ensuite offrir le 24 au soir, le 25 le matin, dans certaines familles ce sera peut-être aujourd'hui, hein, des cadeaux, parce que c'est la tradition qui le veut. Et les cadeaux que vous allez recevoir et que vous allez offrir, c'est des cadeaux bien tangibles, bien matériels, qu'on peut tenir en main, qu'on peut voir, parfois qu'on peut même boire ou qu'on peut manger. Moi, j'aime bien cela. Et quand on oublie de faire un cadeau, ça arrive moins à Noël, mais ça peut arriver dans les anniversaires. Un anniversaire qui nous... Parfois, on s'en sort par une pirouette en disant « Ah, mais moi, mon cadeau, c'est que je t'aime. » Ou « Moi, mon cadeau, c'est que je suis là pour toi. » Un petit peu comme les hommes qui lors de la Saint-Valentin, disent à leur femme « Tu sais, chérie, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécial. » C'est peut-être vrai, mais n'empêche qu'à certains moments... lors des anniversaires, à Noël, on aime bien quand même recevoir des cadeaux et qu'ils ne soient pas juste des bons sentiments. Et la Bible nous dit que Dieu nous fait des cadeaux. Alors, ce n'est pas le mot « cadeau » qui est utilisé, on va plutôt parler de bénédiction ou de don. Et parfois, on a un petit peu du mal à discerner ou à se rappeler les cadeaux que Dieu nous fait, les bénédictions qu'il nous donne. Et assez naturellement, on va avoir tendance à penser d'abord aux bénédictions matérielles que Dieu nous accorde. Et il y en a beaucoup, elles sont nombreuses. Recevoir une naissance dans une famille, par exemple. On a récemment présenté plusieurs enfants ici dans notre église, et c'était une joie, une reconnaissance, une bénédiction que Dieu accorde. Un pardon qu'on peut recevoir, un pardon qu'on peut donner. Une relation d'amitié, un coucher de soleil, les chants des oiseaux, le fait d'avoir des vêtements, le fait d'avoir de quoi manger, tout ça, ce sont des bénédictions que Dieu nous accorde. Et Dieu nous fait aussi des cadeaux spirituels, des bénédictions que nos cinq sens n'arrivent pas à voir ou à expérimenter directement. Et c'est peut-être du coup plus difficile de s'en rappeler. Et on a besoin régulièrement d'entendre la Bible nous en rappeler. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse. Il commence par leur rappeler les cadeaux spirituels que Dieu leur a faits. Et il le fait d'une manière assez étonnante, en une phrase immense qui tient sur quasiment 10 versets dans nos Bibles, qui donne des sueurs froides à tous les traducteurs, parce que c'est une phrase en grec. Une phrase, du coup, c'est un passage de la Bible où parfois, d'une version à l'autre, on peut avoir des arrangements de phrases différents, parce que Paul a écrit qu'une seule phrase, vraiment très, 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 très longue. Et voilà, on ne sait pas toujours très bien exactement comment les différentes propositions s'enchaînent. Mais en tout cas, cette phrase-là, ce que Paul souhaite à travers cette phrase qu'on va lire ensemble ce matin et sur laquelle on va méditer, c'est nous redonner le contexte de notre vie, le contexte immense, large, vaste dans lequel Dieu nous invite. Lisons ensemble les premiers versets de l'épître de Paul aux Éphésiens, qui vont s'afficher dans la version du semeur. Éphésiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Et maintenant commence la phrase dont je vous ai parlé. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant une pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Fin de la phrase de l'apôtre Paul. Amen. Alors, dans cette liste de bénédictions spirituelles, de cadeaux que Dieu nous accorde, on va ouvrir 5 paquets cadeaux ce matin. Et avant ça, j'aimerais simplement relire le verset 3 parce qu'il y a une clé importante qu'on y trouve, c'est le tout début de cette phrase. « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. » Il nous a comblés. C'est quel temps pour petite révision de français ? Passé composé, ouais. Le passé composé. Alors, le passé composé, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est pas il nous comblera, c'est il nous a comblés. Et là, il n'y a pas de problème de traduction. C'est vraiment du passé dans le texte grec d'origine. Les bénédictions dont Paul va parler, elles nous ont déjà été offertes. Elles sont offertes à ceux qui croient en lui. C'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. On peut y avoir accès, on peut ouvrir ces cadeaux. Alors, première bénédiction, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Verset 4, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alors, si vous avez fait du sport en équipe, vous avez sans doute déjà expérimenté qu'au moment où il faut faire deux équipes, on désigne deux capitaines. Puis ensuite, à tour de rôle, chacun va appeler les jeunes qui sont présents pour constituer son équipe. Alors, je ne sais pas quel souvenir vous avez de ces moments-là, mais généralement, c'est toujours les plus forts, les plus costauds, les plus grands qui sont choisis en premier. Et puis, au fur et à mesure que les équipes se constituent, ben, tous les autres, ils se retrouvent penauds. Et puis, à la fin, il y a deux, trois personnes, bon, ben allez, on prend dans l'équipe. C'est pas forcément super pour le moral et pour l'estime de soi. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi, dit Paul aux Éphésiens. Et il n'a pas fait par dépit. Il ne nous a pas choisi parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que ben, les meilleurs avaient déjà été pris ailleurs et du coup, il ne restait plus que nous. Bon, ben, bon, allez, je vous prends dans mon équipe. Non, Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Avant que je n'existe, avant que tous mes ancêtres n'existent, tu étais déjà dans le projet de Dieu. C'est une vérité qui est puissante, réconfortante, rassurante. Si Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, alors ma vie n'est pas due au hasard. Avec Dieu, les naissances par accident, ça n'existe pas. Alors ça peut arriver qu'il y ait des naissances, des enfants qui naissent, sans qu'il y ait un projet de parent, parental, on va dire. Mais toute naissance s'inscrit dans le projet de Dieu. Il y a toujours un projet de Dieu. C'est aussi une vérité puissante, réconfortante, rassurante. Parce que si Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, il m'a choisi avant que je puisse dire le premier mot, que je puisse faire mon premier choix, que je puisse faire ma première action. Ça veut dire que j'y suis pour rien dans le choix de Dieu. Ce n'est pas moi, en fonction de ce que je vis, de ce que je décide, qui a influencé le choix de Dieu. C'est lui qui m'a choisi par grâce. Dieu nous a choisis, premier cadeau. Et dans quel but ? Dans quel but ? Alors, regardons la deuxième bénédiction. Dieu nous a adoptés. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Dieu nous choisit avec une intention, dans un but particulier, être en relation avec lui et que nous soyons en relation. Que lui soit en relation avec nous et que nous soyons en relation avec lui. Et ce n'est pas une relation distante, impersonnelle, avec un Dieu qui serait lointain et une sorte de puissance. Non, c'est une relation qui se caractérise par l'amour, parce qu'il nous a aimés. L'amour, c'est le moteur de l'action de Dieu pour nous. Et elle se caractérise par un choix individuel, destiné d'avance. Dans les plus anciennes traductions, si vous avez des traductions second, par exemple, à la Colombe, etc., on va utiliser le terme de prédestiné. Nous avons été prédestinés. Et on va aussi parler de, plutôt que choisir, on utilise le terme d'élire. Et ce sont des questions sur le choix de Dieu, ça peut susciter beaucoup de questions. Et ça a suscité énormément de questions et de réflexions. Si Dieu m'a choisi, pourquoi il m'a choisi moi ? Et pourquoi il ne choisit pas telle autre personne ? Si c'est Dieu qui choisit, est-ce que je suis vraiment libre ? Est-ce que l'homme est libre si on a été destiné d'avance ? Alors, je ne vais pas ouvrir ce dossier-là ce matin. C'est une question qui est complexe et à laquelle on peut réfléchir. Mais ce que je remarque ici, c'est que Paul, pour lui, ça ne suscite pas de perplexité. Ce que ça suscite, c'est un émerveillement et une adoration. Il constate que Dieu a choisi ses enfants. Il constate qu'effectivement, c'est un projet qui le dépasse et qui remonte avant la fondation du monde. Ça ne le met pas dans un état de perplexité et de réflexion à se torturer le cerveau, non. Il adore celui qui est à l'origine de ce cadeau, de cette bénédiction. Et enfin, cette relation, c'est une relation filiale, c'est une relation d'un parent avec son enfant. Dieu nous connaît personnellement. Dieu n'est pas en relation avec le genre humain. Il n'est pas en relation avec l'humanité. Il est en relation avec Fabrice, avec Thomas, avec Christine, avec Laetitia. Il est en relation avec chacun de vous personnellement, parce qu'il vous connaît et parce qu'il a envie d'avoir cette relation personnelle. Regardons la troisième bénédiction, le troisième cadeau que Dieu nous a accordé. Dieu nous a délivrés. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu nous a choisis, Dieu nous a adoptés et il nous a arrachés à une condition spirituelle qui était une condition spirituelle triste, bien triste, et dont nous n'avions pas forcément conscience. Mais Dieu nous fait passer du statut d'esclave à celui de personne libre, de la position de condamné à cette position de personne graciée. Et ce changement-là, on était sur des rails dans une direction et Dieu nous fait complètement changer de direction. Ça a supposé tout un projet, tout un plan. Et ce plan, il a eu un coût, celui de la mort de Jésus à la croix, comme c'est rappelé ici. Jésus est mort à la croix pour nous permettre d'être délivrés. Et Paul ensuite enchaîne les superlatifs pour parler de cette bénédiction. Au verset 8, « Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance. Dieu ne donne pas sa grâce au compte-gouttes. Il ne fait pas les choses à moitié. La délivrance qui nous est donnée, qui nous est offerte, c'est une délivrance qui est radicale, qui est plus forte, plus grande que toutes les fautes qu'on pourrait imaginer, tous les péchés qui ont été commis. Dieu nous a choisis, Dieu nous a adoptés, Dieu nous a délivrés et Dieu nous a aussi éclairés. Verset 8, la suite du verset 8, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous l'expression un plan secret. Moi, ça me fait penser au grand jeu qu'on fait au flambeau, ou au scout, où y a des indices à trouver, et puis une carte au trésor, quelque chose d'un peu mystérieux. Dans le contexte actuel, avec ce qu'on entend dans les médias, la pandémie de Covid, ça peut aussi faire penser aux théories du complot. Il y a un plan secret pour contrôler le monde. Mais quand on lit la suite du texte, en fait, on voit que Paul, il dévoile ce plan. Deux versets plus loin, il dit « Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. » Alors, si Paul explique le plan, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de secret. Eh bien, c'est précisément ça, le cadeau que Dieu nous fait. Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité, à ne pas pouvoir comprendre ce qu'il fait, mais il nous invite à entrer dans l'histoire qu'il est en train d'écrire. Et dont il nous donne les principaux éléments pour le comprendre. Ceux qui étaient là hier à la fête de Noël, vous vous rappelez peut-être du sketch qu'on a pu jouer avec Élisée, Niki, Sylviane et moi, où Dieu avait convoqué ses archanges pour une visioconférence pour leur expliquer là son projet de venir sur Terre en Jésus-Christ, en bébé. Et puis on voyait comment les anges réagissaient de manière un peu... interloqué, il y a eu beaucoup de quiproquos, d'incompréhension, mais Dieu a fait rentrer dans ce sketch, bien sûr, les anges dans son projet. Il leur a donné les clés pour comprendre son intention, ce qu'il voulait faire. Et c'est ce qu'il veut faire aussi, en nous éclairant. Un autre exemple qui parlera peut-être aux gens qui portent des lunettes. Qui est parmi ceux qui portent des lunettes est myope? Ouais. Donc généralement, quand vous avez un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, quand vous allez en consultation, vous enlevez vos lunettes, et puis vous avez un panneau au bout de la salle qui ressemble à ça, généralement. Et puis ensuite, l'ophtalmo va vous mettre des lentilles, enfin des verres, qui vont essayer d'ajuster votre vue. Et puis... C'est comme ça que la révélation de Dieu fonctionne d'une certaine manière. Si on lit l'Ancien Testament, au moment où Dieu appelle Abraham, je pense qu'Abraham, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire, c'était un monde polythéiste. Voilà, il n'y avait pas de relation. Dieu était là, mais on adorait Dieu par différents moyens. Et Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu révèle à Abraham, et puis ensuite à l'ensemble du peuple d'Israël, qu'on est sauvé par la foi. Et en Jésus... Quand Jésus arrive, là, ça y est, il y a des vers supplémentaires qui viennent à nos lunettes et on peut voir la suite du texte. On est sauvé par la foi en Jésus qui est Dieu fait homme, qui est mort pour nous. Alors je pense qu'il y a encore des petits caractères tout en bas qu'on ne pourra lire qu'avec l'espérance dont nous parlait Francky quand Jésus reviendra. Mais l'essentiel nous est désormais connu. Si on regarde à Jésus, on voit le plan secret de Dieu. On voit ce plan que Dieu a mis en œuvre pour rétablir cette relation avec ses créatures. En Jésus, on voit la grandeur du plan de Dieu, sa force, son universalité. Alors, parfois, on peut se poser des questions. Je vous posais cette question de choisi d'avance, élu. Comment tout ça, ça, ça marche avec la question de la liberté. Donc on peut se poser des questions. Et on a besoin de la sagesse, de l'intelligence, et on continue à avancer. Mais les éléments les plus importants, maintenant, en Jésus, on peut les percevoir, on peut les comprendre. C'est une vraie bénédiction. Cinquième bénédiction, Dieu nous a acquis. Verset 13, « C'est en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » Oui, les chrétiens appartiennent à Dieu, il nous a acquis. Alors pour des personnes qui, comme nous, vivent en Occident, dans une société plutôt individualiste et post-moderne, comme on dit, dire qu'on appartient à quelqu'un, c'est pas forcément très positif. Dire qu'on est dépendant des autres, ça, je pense qu'on c'est assez objectif. On dépend des autres pour notre nourriture, pour notre vêtement. Si on est un peu altruiste, on peut dire qu'on est solidaire des autres. Mais appartenir à quelqu'un d'autre, c'est renoncer à sa liberté. C'est un terme qui est trop fort. Paul nous dit qu'appartenir à Dieu, c'est bel et bien une bénédiction spirituelle. Je pense qu'il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que Dieu est notre créateur. On n'appartient pas à n'importe qui. Et le fait d'être en relation avec Dieu, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Appartenir à Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut pleinement vivre notre vocation d'être humain. Je crois que c'est C.S. Lewis qui prenait l'image du poisson, du poisson rouge qui est dans son bocal d'eau. Le poisson, il a été créé pour vivre dans de l'eau. S'il a envie de vivre comme les humains qu'il voit à travers son bocal à l'air libre, il va avoir du mal, quoi. Et à la fin, ça va mal se terminer pour lui. Eh bien, nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Il suffit d'ouvrir la Bible, Genèse 1. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Et donc, appartenir à Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Puis la deuxième raison, c'est que Dieu nous accorde son esprit, l'Esprit Saint, comme un sceau, une marque personnelle. Dans l'Antiquité, on utilisait le sceau, donc c'était souvent des bagues, et dans la bague, on mettait en creux le sceau qu'on pouvait ensuite, dans l'argile ou dans la cire, marquer que tel objet nous appartient. Recevoir le sceau du Saint-Esprit, c'est un privilège immense. Parce que le Saint-Esprit n'est pas passif, il n'est pas inerte. Ce n'est pas comme juste une image comme ça qui a posé sur nous en disant « Lui, il est à moi, pas touche. » Non, c'est le Saint-Esprit, il est actif. On l'a chanté ce matin. Le Saint-Esprit, il agit en nous, il nous régénère, il nous éclaire, il nous guide, il développe nos sens spirituels. Cinq bénédictions que Paul présente. Dieu nous a choisis, il nous a adoptés. Il nous a délivrés, il nous a éclairés, il nous a acquis. Paul, en fait, souhaite, avant de continuer sa lettre aux Éphésiens et de développer tout ce qu'il a à leur dire, il souhaite leur rappeler, et rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous quel est le contexte de votre vie, quelle est la grandeur, les horizons vastes dans lesquels Dieu vous invite à vivre. Et ce qui est frappant en lisant ce texte, c'est que Dieu agit à travers Jésus-Christ. Toutes ces cinq bénédictions, c'est à travers Jésus-Christ qu'elles nous sont données. Si on affiche, là ça sera un petit peu difficile à lire, si on affiche le texte sur une seule page et qu'on cherche toutes les mentions de Jésus, on obtient ça. Voilà. En Christ, par Christ, le Messie, le Fils bien-aimé. Tout au long du passage, Jésus est mentionné, Jésus-Christ. Toutes les bénédictions sont à l'initiative de Dieu en Jésus. Il n'y a aucun verbe qui nous dit ce qu'on doit faire pour bénéficier de ces cadeaux. Dieu nous les donne. Dieu dirige toutes choses par son Fils. Mais en même temps, nous ne sommes pas juste des spectateurs. Le mot qui revient le plus souvent dans le passage, si il y a des petits sites qui permettent de faire ce qu'on appelle des nuages de mots, donc on remplit un texte et puis ensuite on va avoir des mots plus ou moins gros selon leur fréquence. Voilà. C'est nous. Nous. Le mot le plus fréquent dans ce passage. On le retrouve encore plus fréquemment que le nom de Jésus. Chacune des actions de Dieu, elle nous concerne. Elle est destinée, elle nous est destinée. Dieu agit en Jésus pour nous. Et est-ce que le fait d'accoler les mots Dieu et nous, ça vous fait penser à quelque chose? J'ai entendu là? Dieu avec nous, hein. Emmanuel. Et en lisant ce texte, on pourrait dire presque Dieu pour nous. Hein. Emmanuel, le nom que les prophètes ont donné au Messie qui devait naître. Emmanuel, le nom que l'on rappelle en cette période de Noël. Dieu avec nous en Jésus-Christ. Oui, Jésus est celui qui nous permet de bénéficier de ces cadeaux, de ces bénédictions spirituelles. Donc on va ajouter une sixième ligne, unie à Jésus-Christ. Dieu nous unit à Jésus-Christ. Quelques mots pour conclure, en faisant la question, mais comment est-ce qu'on réagit face à cette vérité, à ce tourbillon de bénédictions que Paul, qui était visiblement dans un élan en écrivant ce texte, lui-même dans un élan d'adoration, comment réagir, nous, face à cela? Ces bénédictions qui sont en cadeau, hein. Voilà, petit moyen mnémotechnique, si vous voulez les retenir. Voilà, c'est cadeau. Je pense qu'il y a deux réactions. C'est celle qu'on a généralement quand on reçoit un cadeau. Je pense qu'on peut avoir les mêmes réactions face à ce texte. La réceptivité, la reconnaissance. La réceptivité, c'est savoir recevoir simplement, sans non plus trop se poser de questions. On peut se poser des questions, hein. Moi j'aime beaucoup les questions théologiques sur la prédestination, etc. Mais là, ce n'est pas du tout l'objet. Recevez, vous avez été choisi, vous avez été adopté. Sans crainte d'arrière-pensée non plus. Est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? Non, on reçoit comme un enfant en fait. Quand un enfant reçoit un cadeau, il le reçoit. Et la reconnaissance, c'est se tourner vers Dieu pour le remercier, pour le louer pour sa grâce. À trois reprises dans le texte qu'on a lu, Paul nous encourage à louer la gloire de la grâce de Dieu. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant par la prière. Une prière qui est tirée de ce livre, qui m'a en partie inspiré pour cette prédication. Un commentaire écrit. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est par des francophones. Un commentaire de la lettre de Paul aux Éphésiens, paru il y a très récemment, par Dominique Angers. Je vous invite à la prière. Père céleste, je te bénis parce que tu m'as tant béni. Tu m'as choisi, moi qui n'avais rien pour attirer ton regard. Tu m'as adopté et tu es devenu mon Père céleste, moi qui ne soupçonnais pas que tu puisses t'intéresser à moi. Tu m'as délivré de toutes mes fautes. Tu m'as totalement pardonné et libéré. Tu m'as dévoilé ton plan, ce qui me permet de savoir pourquoi je suis sur terre. Par le message de l'Évangile, tu as fait en sorte que je t'appartienne et tu m'as marqué du sceau de l'Esprit en signe que je suis à toi. Non seulement je suis à toi, mais ce qui est à toi est à moi. L'Esprit est l'acompte de mon héritage futur. Père, tout cela me dépasse. Pourtant, je sais qu'un jour, je comprendrai bien mieux ces choses, parce que j'en ferai la pleine expérience. Que ta gloire soit célébrée. Amen.